Panthéon. Nicolas Jamain.
Il représente pas le football, il est le football.
Pelé va dentro! Gol du Brasil!
Moi je parle d'artiste. Pelé était un garçon qui crée.
Rivelino, direct pra área. No alto Pelé!
Il a marqué le football comme personne d'autre ne l'a marqué.
Je crois que le football a donné à Pelé. Le football me a donné tout.
Il s'est goûté, il s'est Pelé. Il met à deux, il s'est Mané. Il s'est dit zéro, il s'est Premier, c'est tricopieux.
C'est l'histoire d'un footballeur brésilien. C'est l'histoire du footballeur brésilien. C'est l'histoire du football, de la première star mondiale du jeu le plus universel, d'un artiste déroutant, d'un dribbleur génial et d'un buteur record. C'est l'histoire du numéro le plus mythique du football, de l'éternel numéro 10. C'est l'histoire d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé.
Tête de Pelé, but ! Tête de Pelé !
Troisième partie, le plus grand joueur de l'histoire, avec Stéphane Cohen, auteur de la biographie de Pelé. Notre troisième et dernière partie commence le 19 novembre 1969 au Stade Maracana de Rio. Pelé vient d'avoir 29 ans, double champion du monde, 8 fois vainqueur du championnat de Sao Paulo, 2 fois vainqueur de la Coupe intercontinentale. Il s'apprête à vivre un match pour l'histoire. ...80 000 personnes ont bravé la pluie de Rio avec une attente impatiente. Voir Pelé marquer le millième but de sa carrière. Santos affronte Vasco de Gama dans un match comptant pour le titre de champion fédéral. Il y a une ambiance de finale de Coupe du Monde ce soir-là. Des dizaines de photographes et caméramans entourent le terrain. Le Brésil attend l'événement. Depuis que des journalistes ont fait les comptes, Pelé, après 15 ans de carrière, a marqué 999 fois. Ce sera donc peut-être le grand soir. Le cadre est idéal, la date aussi. Jour d'anniversaire du drapeau brésilien et veille de celui de sa mère, Dona Céleste. Le coup d'envoi est donné. Vasco marque, Santos aussi, mais toujours pas Pelé. La fin du match approche, il ne reste qu'une poignée de minutes quand le numéro 10 accélère balle au pied, plein axe, s'engouffre dans la surface de réparation. Et s'écroule, pénalty. Nous y sommes. Les joueurs de Vasco contestent auprès de l'arbitre. Leurs supporters hurlent « Pelé, Pelé !» Ses coéquipiers s'alignent tous dans l'euro central. Pelé est seul au monde. Le moment est solennel. Un joueur de Vasco veut gâcher l'histoire. Il piétine le point de pénalty pour l'empêcher de marquer. À ce moment-là, pour la première fois de ma carrière, je suis nerveux. Le gardien Andrada était en forme. Je n'ai jamais ressenti une telle pression. Je tremble. Il est 23h11 au stade Maracana. Pelé s'élance, marque un temps d'arrêt. Pelé a à peine le temps d'exulter, de récupérer le ballon qu'il voit fondre sur lui une foule de caméramans, de photographes, de supporters. On les lève sur les épaules, il enfile un maillot frappé du numéro 1000 et commence un tour d'honneur qui dure 30 minutes avant de terminer le match. Stéphane Cohen, vous écrivez que c'est l'autre plus grand jour de sa carrière après son premier sacre mondial en 1958. Pourquoi ?
Il y a une forme de conclusion un peu à ce qu'il a réalisé. C'est un peu son bâton de maréchal. On a évoqué précédemment sa scolarité contrariée. Il a brillé dans une autre dimension. Il a brillé sur les terrains de football. Et là, il s'est avéré le plus grand de tous les temps. Je dirais que ce millième but dans sa carrière, c'est son diplôme. C'est ce qui le place à la hauteur de tous ceux qui ont fait des études pour arriver là où ils en sont. Lui, Ce faisant, marquant ce 1000e but, inscrit à jamais son nom au panthéon de son sport.
Pelé, au nom de toute l'équipe, tu as notre reconnaissance éternelle pour ce que tu as fait pour le Brésil et pour avoir promu le foot, l'âme de notre peuple. Pelé, prends du repos, tu l'as bien mérité. Personne ne le mérite plus que toi.
Au moment où les deux formations du Brésil et de l'Italie pénètrent sur la pelouse du Stade Azteca, comment ces deux équipes en sont arrivées là, c'est ce que Pierre Letien va d'abord nous dire. Pierre, à vous l'antenne.
Eh bien écoutez, le Brésil opérait, vous le savez, dans le groupe 3 pour les huitièmes de finale, groupe dont les matchs se jouaient à Guadalajara. Le Brésil a battu successivement, vous vous en souvenez sans doute, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Angleterre. En quart de finale, les Brésiliens ont triomphé du Pérou et en demi-finale, le Brésil a battu l'Uruguay, accédant ainsi à la finale.
Nous voici donc au dernier jour de gloire du footballeur Pelé. Nous voici le 21 juin 1970. Au cours de ce printemps, le monde a découvert le maillot jaune du Brésil, car c'est la première fois que la Coupe du Monde est diffusée en couleur à la télévision. La Seleção a réussi à se hisser pour la troisième fois en quatre éditions en finale de la compétition. Ce sera cette fois-ci donc contre l'Italie. Ce match vient sceller un mondial offensif et spectaculaire. La FIFA, échaudée par la brutalité du mondial 66, a introduit pour la première fois dans l'histoire du football les cartons jaunes et rouges, et demande aux arbitres de protéger les joueurs créatifs, de sanctionner ceux qui ne cherchent qu'à casser le jeu et les joueurs. C'est une excellente nouvelle pour le Brésil de Pelé. Il peut à nouveau exprimer son football léger, aérien. Il balaye la Tchécoslovaquie 4-1 en match de poule, bat l'Angleterre championne du monde en titre 1-0, malgré l'arrêt du siècle, malgré le fameux but que Pelé a marqué et que Gordon Banks a arrêté.
Because Terzino, he's onside. That's a good cross ball, it's Pelé! And a fantastic save by Banks! What a fantastic save by Gordon Banks!
La Seleção enchaîne par une victoire 3-2 contre la Roumanie. Pelé marque deux fois, il porte son total à 3 avant les quarts de finale et fait taire ceux qui le pensaient vieillissant à 29 ans et après 15 ans de carrière. Il balaye aussi une rumeur selon laquelle il souffre d'importants problèmes de vue.
Oui, alors cette belle histoire de la Coupe du Monde 1970, elle se fait dans la douleur quand même. Il faut savoir qu'avant le voyage au Mexique, un nouveau sélectionneur a été nommé, il s'appelle Saldana. On fait une grande confiance à Saldana qui, dans un premier temps, fait une équipe compétitive puisque les matchs de préparation se passent très très bien jusqu'à ce qu'il se passe mal. Et Saldana, pour se défendre, beau parleur, gros buveur, décide de trouver un pare-feu. Et ce pare-feu, c'est Pelé. Ok, si l'équipe joue mal, c'est pas parce que je les entraîne mal, c'est parce que Pelé est vieillissant et qu'il a des problèmes de vue. Et voilà que Pelé finit par le croire, lui-même. Saldana dit devant les journalistes que Pelé, de toute façon, il voit plus rien, qu'il a un truc, une maladie, je peux pas vous dire quoi. Et Pelé va passer des nuits blanches à se demander quel est ce mal qui le ronge de l'intérieur sur la simple déclaration d'un Saldana qui fait ce qu'il peut pour sauver sa peau de sélectionneur. Au final, il ne le fera pas. Il ne sauvera pas sa peau. Il sera remplacé par Mario Zagallo parce que Pelé est plus fort que Saldana. Parce que Pelé incarne autre chose, un vrai espoir de remporter cette Coupe du Monde, même s'il est sur la fin de sa carrière. Et donc, on décide de remplacer Saldana par Mario Zagallo, qui est un ancien complice de victoire sur le terrain au cours des années 58 et 62. Et Mario Zagallo va constituer une équipe autour de Pelé. C'est un peu Pelé qui va devenir le vrai sélectionneur du Brésil. Et c'est lui qui va indiquer la marche à suivre pour faire de ce Brésil 1970 un Brésil conquérant, joueur, technique et quelque part qui ne s'échappe pas beaucoup, qui ne s'éloigne pas de ce que Saldana voulait. Il se trouve que Saldana voulait peut-être avoir trop d'emprise sur ses joueurs.
Le quart de finale contre le Pérou est une formalité. 4-2. Puis vient le match qui ranime les fantômes de la finale du Mondial 1950. L'Uruguay est à nouveau sur le chemin du Brésil. La peur est dans les têtes et les jambes. Tétanisé, le Brésil est mené 1-0 avant le réveil. Clodoaldo égalise. Jairzinho inscrit son 6e but du Mondial. Et Rivelino scelle la victoire. 3-1. C'est aussi ce jour-là que Pelé a encore inventé. C'est ce jour-là qu'il a dribblé un gardien sans même toucher le ballon.
Tostão qui lance Pelé dans la profondeur, qui se retrouve face au gardien.
Sherif Guémour, journaliste à ce foot.
Et comme le ballon est légèrement derrière, Pelé continue à courir. Le gardien en face, Mazurkevich, commence à se mettre en position de stopper le ballon. Et en fait, il se fait complètement mystifier. Pelé et le ballon font une sorte de grand pont sur le gardien. C'est un coup de magie. On voit ça, on se dit qu'est-ce qu'il a fait.
C'est peut-être l'action la plus connue de sa carrière. Pourtant, ce n'est pas un but. On assiste là à un vrai tour de magie.
Encore un but qu'il n'a pas marqué, un des plus beaux d'ailleurs. Et quelque part, on a envie de le retenir. Et ce que je retiens aussi de cette chose-là, c'est que vous savez, ce fameux grand pont, appelons-le comme ça, que Pelé effectue sur Mazurkiewicz, cet épisode a failli ne jamais exister. Parce que quelques minutes avant, Pelé, comme d'habitude au cours de tous les matchs qu'il a disputés, a été littéralement harassé, harcelé par les joueurs adverses. Et il avait un garde du corps, entre guillemets, qui s'appelait Fontes, un homme dégarni, un peu sec, et qui n'arrêtait pas de le suivre, et qui lui a fait mal à plusieurs reprises. Et à un moment, alors que les deux se disputent le ballon, au bord de touche, Pelé administre à ce fameux Fontes un coup de coude énorme, qui lui vaudrait un rouge direct aujourd'hui par n'importe quel arbitre. Mais je pense que si en 1966, le Brésil avait quelque part pâti d'une politique de l'ombre pour ne pas gagner cette Coupe du Monde, je pense qu'à contrario, beaucoup de choses ont été faites aussi pour que le Brésil soit une grande gagnante. Ça peut s'expliquer notamment par le fait que le match, la demi-finale contre l'Uruguay, avait été délocalisé à Guadalajara, en altitude, là où le Brésil avait joué tous ses matchs, et non pas à Mexico, où les Uruguayens les attendaient. Donc ce sont des petits détails qui font les grandes histoires.
Peu importe, le Brésil est en finale de Coupe du Monde. Il fête sa qualification comme s'il l'avait déjà gagnée. « J'avais 9 ans à nouveau », écrira plus tard Pelé. « Nous éprouvions un formidable sentiment d'accomplissement, presque irrationnel, comme si nous avions terrassé le dragon qui nous hantait depuis toujours. »
Voilà que le meilleur gagne, la 9e Coupe du Monde vient de commencer. L'Italie, maillot sombre si vous êtes sur la première chaîne, à droite le Brésil, à gauche maillot clair, et si vous êtes en couleur, les Italiens, vous l'avez remarqué, ont un maillot bleu et les Brésiliens leur maillot jaune.
Michel Drucker est au commentaire pour l'ORTF. Le monde du football est encore sous le choc de la demi-finale Italie-RFA, considéré encore aujourd'hui comme le match du siècle, remporté 4-3 par la squadra Azzurra, après prolongation. Cette finale est une troisième revanche pour le Brésil dans ce mondial. Après l'Angleterre, après l'Uruguay, aux pays les plus anciens se souviennent de la demi-finale perdue en 1938 en France contre la Nationale. Avant le match, sans l'expliquer, Pelé est convaincu que la Seleção va s'imposer. Mais malgré cette confiance, il est pris d'une crise d'angoisse dans le quart qui emmène son équipe vers le stade Aztèque. J'ai fondu en larmes, mais j'ai fait en sorte que personne ne le voit. Les premières minutes de la finale s'en ressentent, jusqu'à la 18e minute de jeu.
Tête de Pelé, but ! Tête de Pelé ! Tête de Pelé, but ! En voici l'action. La touche, un centre de Rivellino. Pelé se détend. Alberto Di est battu, 1 but à 0. C'est déjà du délire dans le stade Aztèque.
Le numéro 10 est suspendu en l'air, donne l'impression d'y rester plusieurs secondes. La détente est phénoménale, le timing aussi. Il inscrit son 1029e but, le 12e de sa carrière en Coupe du Monde. Mais le Brésil lâche son étreinte, subitement. Et l'Italie égalise 20 minutes plus tard.
Un contre favorable à Bonizegna. Riva, Riva Bonizegna, but, but. Égalisation de Bonizegna.
La suite en deuxième période sera un récital. Les Italiens, épuisés par leur demi-finale, s'écroulent. Gerson frappe aux 20 mètres et marque à la 66e. Gersinho pousse le ballon à la 71e sur une passe de Pelé. Et Carlos Alberto parachève la victoire à la 88e minute de jeu. Le Brésil est à nouveau champion du monde. Pelé l'est pour la troisième fois. Il est assailli sur la pelouse par des supporters mexicains. Son maillot, son short, ses crampons sont arrachés. Il ne porte plus que son caleçon. Il réussit à s'extraire de la foule. Et 30 minutes plus tard, il pousse trois fois le même cri dans le vestiaire. « Je ne suis pas mort, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort !» Il n'est pas mort, mais on ne le sait pas encore. Pelé vient de jouer son dernier match de Coupe du Monde. Il a 29 ans et désormais seul sur le toit du monde, plus que jamais, le roi du football.
Quem é o rei Pelé?
Il ne rejouera plus qu'un match avec le Brésil, le 18 juin 1971 au Maracana. Après la rencontre, il fait un tour d'honneur. La foule scande son nom et hurle « Fica, Fica, reste, reste !» Pelé est en larmes, mais il ne reviendra jamais sur sa décision. Il faut partir quand le public veut que l'on reste, pas quand il veut qu'on s'en aille. Pelé le sait, il arrive au bout de son histoire, essoré par un club Santos qui lui impose une centaine de matchs chaque année, qui multiplie les tournées mondiales pour renflouer ses caisses. C'est à l'occasion de l'une d'entre elles que le jeune Alain Giresse, 20 ans, a croisé sa route en mars 1973 lors d'un match amical entre Santos et les Girondins de Bordeaux au Parc Lescure.
Pelé, avec son club Santos, faisait souvent des tournées dans le monde entier. Il est venu en 73 de jouer à Bordeaux. Le stade était archi-comble, évidemment. Se dire qu'on pouvait l'aborder comme ça, comme tout un chacun, c'était le privilège qu'on pouvait avoir parce qu'il avait cette simplicité. C'est le premier joueur qui a donné une dimension technique supérieure par des gestes qu'on n'avait encore jamais vus et qu'il a été capable, lui, d'inventer. Et c'est ce qui faisait sa magie. Il aura un statut dans le monde du football. Il a été approché, mais il n'a pas été égalé, dépassé.
Pelé va avoir 33 ans. La Coupe du Monde 74 approche et le Brésil tente encore de le convaincre de revoir sa décision. Une pétition est lancée pour le convaincre de jouer une dernière fois le Mondial. Une cinquième et dernière fois. Le président, le gouvernement font pression également. 4 millions de dollars lui sont proposés. Le Brésil n'accepte pas que Pelé, jeune homme, et désormais un vieux footballeur. Il ne craquera pas. Pourquoi ?
Il n'en peut plus. Il est au bout de la route, il a donné, son corps a donné. Ce que les gens ignorent à l'époque et le sauront après, c'est que c'est le début, c'est la fin de sa carrière, mais c'est le début de ses ennuis de santé. Il va subir l'ablation d'un rein qui a été touché à de nombreuses reprises par les défenseurs rugueux sud-américains notamment. En décidant de mettre un terme à sa carrière, il met un terme à d'incessants voyages, à des matchs au cours desquels il a payé énormément au niveau physique, parce qu'il n'y a pas seulement les agressions dont il a été victime en 1966, ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est littéralement agressé à chaque match. Il a plusieurs fois fait le coup de poing, que ce soit avec des Italiens, avec des Argentins, avec des Péruviens. Il a été expulsé, il a dû faire amende honorable, il a dû faire des excuses publiques lorsqu'il a pété un plomb littéralement contre un joueur argentin au cours de petit Mondialito, une petite Coupe du Monde organisée par les Brésiliens, par la junte militaire avant la Coupe du Monde 1966. Il n'en peut plus, il est au bout, il a trop donné au football et aujourd'hui il veut se consacrer à sa famille.
Et le peuple brésilien lui en voudra un peu plus après l'échec de la sélection mondiale 74. La magie avait disparu. Le Brésil incapable de se qualifier pour les quarts de finale. Certains le tiennent pour responsable de l'élimination. Pelé est épuisé. Il est temps pour lui de tourner la page. Et le 2 octobre 1974, alors qu'il joue son dernier match avec Santos,
Pelé, dis adeus ao futebol, minha gente.
Arrête le jeu, en plein match, prend le ballon avec ses mains, pose les genoux à terre, tend ses bras en croix et retire son maillot. C'est la dernière image de Pelé sous le maillot de son club, son unique club. Les derniers instants des 1116 matchs joués avec Santos, après avoir marqué 1091 buts. Pelé dit adieu au Brésil. Il promet qu'il ne portera aucun autre maillot que celui de Santos, son club de toujours. Huit mois plus tard, le 15 juin 1975, Pelé réapparaît sous un nouveau maillot, acclamé au moment de sortir du tunnel qui mène à la pelouse du Yankee Stadium de New York. Maillot blanc, short blanc, équipement des New York Cosmos. 5 jours plus tôt, il a signé un contrat avec la franchise américaine dans un pays qui compte sur le roi pour lancer enfin sur ses terres le sport le plus populaire du monde. Ce jour-là, face aux médias américains, Pelé lâche cette phrase « J'ai fait le rêve qu'un jour, les États-Unis sauraient ce qu'est le soccer ». Est-ce réellement ce qui a motivé son choix ?
Pelé après la Coupe du Monde 1970, va devenir l'homme public adulé, va laisser définitivement cette trace de plus grand footballeur de tous les temps. Il va devenir le deuxième sportif le mieux payé au monde après le golfeur Arnold Palmer à l'époque. Mais une fois de plus, Pelé, le naïf, Pelé le candide, va faire banqueroute, va faire confiance à des hommes qui vont s'occuper de sa fortune et qui vont faire de mauvais placements et qui, une fois de plus, vont le mettre dos au mur vis-à-vis du fisc brésilien. Une nouvelle fois, il va devoir puiser au plus profond de son être pour remonter la pente. Il aura beau avoir dit qu'il ne rejouerait plus pour un autre club, eh bien, il va être obligé de le faire. Tout simplement pour renflouer les caisses à l'âge qu'il a et au terme de sa carrière. Les candidats ne se bousculent pas. Santos, il ne veut pas y retourner parce que déjà, les dernières conditions de son retour et de l'effacement de sa dette ont été léonines. Il a été obligé de faire des tournées harassantes pour pouvoir en partie rembourser l'argent qu'il devait.
Il a failli signer au Paris Saint-Germain.
Alors justement, le Real Madrid, un club italien et le Paris Saint-Germain du couturier Daniel Echter ont été contactés par João Avalanche qui a proposé les services de Pelé. On s'est dit à l'époque, le Paris Saint-Germain c'est idéal pour lui, c'est la retraite. C'est un football qui est globalement assez faible. Le football de Division 1 en France, il ne gagne aucune Coupe d'Europe, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Paris est une ville magnifique, il y a de très jolies femmes. Allons-y pour Paris. Donc, Pelé s'est, dans un premier temps, laissé séduire. Et puis, très rapidement, il s'est souvenu que quelqu'un était venu le voir il n'y a pas longtemps, un ancien journaliste anglais qui s'appelle Clive Toy et qui est devenu responsable de la communication dans un club américain qui s'appelle le Cosmos de New York et qui lui avait déjà fait une proposition à laquelle Pelé n'avait pas donné suite à l'époque parce qu'il était encore au top de sa forme. Et maintenant qu'il est dos au mur, eh ben, il se dit pourquoi pas. Pourquoi pas le Cosmos de New York qui lui propose vraiment un contrat inespéré à cette époque de sa vie. Donc il arrive aux USA, auréolé de l'image que l'on sait, dans un football qui est moribond, qui n'a jamais vraiment percé, parce que c'est un football essentiellement confidentiel, parce qu'il est communautariste. Les seuls personnes qui s'intéressent au football sont des immigrés européens ou des immigrés d'Amérique du Sud. Donc les matchs ne concernent que des Grecs, contre des Croates, contre des Serbes, contre des Irlandais, des Italiens, des Mexicains. Pelé est la personne qui va pouvoir faire venir d'autres gens dans les stades que ceux qui aiment déjà le football.
Et il y a un effet Pelé immédiat. Sa présence remplit les stades, électrise les foules. Il est à la une du magazine américain Sports Illustrated, une première pour un footballeur. Les célébrités américaines veulent voir de près la légende du football. Mohamed Ali, Robert Redford, John Lennon, Mick Jagger, tous sont d'ailleurs devenus ses proches, grâce notamment aux soirées passées ensemble au mythique Club 54.
Où il va rencontrer notamment Andy Warhol, qui va dresser son portrait, que l'on peut voir d'ailleurs dans certains musées. Il rencontre tout ce que la planète showbiz fait de mieux à l'époque. On parle des meilleurs sportifs, Borg, Gerulaitis, Connors, McEnroe. On parle aussi des vedettes du cinéma. Ce que Pelé apprécie particulièrement dans la vie à New York, c'est qu'il est une star parmi les stars. Et de fait, ça en fait un anonyme, une forme d'anonyme qu'il n'est nulle part ailleurs. Et ça, il l'apprécie grandement.
Pelé joue 2 saisons et demie aux États-Unis. Son dernier match officiel, le 27 août 1977, s'achève sur un titre de champion, remporté aux côtés de Franz Beckenbauer et de son ancien coéquipier en sélection, Carlos Alberto. Mais la grande émotion de la dernière danse intervient un mois plus tard, le 1er octobre 1977, au Giant Stadium, le vrai soir des adieux, un ultime match entre le New York Cosmos et son équipe de toujours, le Santos Football Club. Pelé joue une mi-temps avec le maillot new-yorkais, l'autre avec celui de Santos, et il marque ce soir-là son 1281e but. Pelé est acclamé par le public, porté par les joueurs des deux équipes, comme toujours assailli par la foule. Et il livre, quelques minutes plus tard, comme il peut, sa dernière interview de footballeur.
Pelé, vous avez vécu des moments très émouvants dans votre vie. Celui-ci fait partie des plus émouvants, des meilleurs. C'est un formidable et un terrible jour et forcément, vous avez senti tout l'amour qu'ils ont pour vous dans ce pays.
Sans aucun doute. C'est un très bon moment.
Vous êtes venu il y a 3 ans et vous avez converti ce pays à votre sport, mais surtout, vous les avez fait vous aimer.
C'est beau car, pour tout ce que j'ai fait, j'y ai mis tout mon cœur. Je crois en les gens, je crois en ce sport. Et la morale, c'est que les gens sont gentils et respectent ce que vous faites.
We thank you. C'est très émouvant, cette dernière interview de Pelé. On voit un homme qui réalise à 37 ans que c'est terminé, qu'il ne jouera plus jamais un match de football. On y voit surtout un homme qui pleure comme l'enfant qu'il a toujours été, qu'il est toujours resté. Nelson Mandela a dit de lui un jour, « Le regarder jouer, c'était regarder le plaisir d'un enfant combiné à l'extraordinaire grâce d'un homme accompli. »
Pelé a toujours été quelqu'un à fleur de peau. Il riait autant qu'il pleurait. Ce qui restera de lui, pour moi, c'est son sourire. Il avait un sourire communicatif, enjôleur, qu'on était obligé de suivre. Et puis, quand on parle de l'enfance, elle est constitutive de l'adulte qui est devenu Pelé. D'abord parce qu'il a fait de sa vie, finalement, un terrain de jeu. Et ensuite de ça, parce qu'il y a eu aussi des épisodes, notamment politiques, où l'enfance a eu un rôle majeur dans les décisions qu'il a pu prendre. Il avait toujours refusé de devenir ministre des Sports au Brésil, ce qu'il a fini par accepter. Pour la énième fois, on lui a proposé, à l'époque c'était Cardoso, qui était le président de la République, et Cardoso lui a dit « Mais Pelé, si tu n'acceptes pas ce poste que je te propose de ministre des Sports, qu'est-ce que tu vas faire pour les enfants dans ta vie ?» Et là, Pelé a dit oui. Pour la première fois, il a accepté d'être aux responsabilités pour pouvoir aider les enfants, et l'une de ses premières mesures, et qui a été une grande réussite, a été justement d'installer des terrains de football dans les favelas avec un accès possible à condition de suivre sa scolarité.
L'héritage laissé par Pelé ne s'est pas arrêté au moment où il a raccroché les crampons ce soir de 1977. Il a inspiré toutes les générations qui ont suivi. 50 ans plus tard, le jeune Erling Haaland, star de Manchester City, a eu ces mots très justes. Tout ce que fait n'importe quel joueur, Pelé l'a fait en premier. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde des archives de matchs de Pelé, on peut voir des grands ponts, des petits ponts, des doubles contacts, des passements de jambes, roulettes, passes aveugles, tirs du milieu de terrain, sombrero. Tous ces mouvements, Pelé les a réalisés avant qu'on les attribue plus tard à d'autres. Il a inventé ce que les autres ont reproduit sans le savoir. Est-ce que cela fait de lui le plus grand ? Est-il plus grand, par exemple, que l'Argentin, son voisin, qui a pris le relais dans les années 80, Maradona?
C'est le plus grand parce que c'est le premier.
Chérif Guémour, journaliste à SoFoot.
Vous pouvez prendre toutes les plus grandes actions du football. Pelé l'a fait en premier. Il a innové dans tous les domaines. C'est le premier à avoir tout réalisé. Maradona a fait tant de raids solitaires. Pelé en a fait 3 fois plus. Maradona a marqué tant de coups francs. Pelé en a marqué 3 fois plus. Donc voilà, pour moi, Pelé reste le plus grand parce que ça a été le premier.
Bien sûr, ça restera la jauge. Tous les footballeurs après Pelé ont été soumis à sa comparaison. Un jeune amateur de football aujourd'hui dira Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Maradona auront été plus ceci ou plus cela que ne l'a été Pelé. Le Pelé dans la force de l'âge, le Pelé de 22-24 ans a la même force, la même dynamique, la même vitesse, la même agilité et encore plus de technique que de nombreux joueurs d'aujourd'hui. Ce qui me fait dire, et je l'affirme, que Pelé est le seul joueur des années 50 qui aurait sa place aujourd'hui dans n'importe quelle des meilleures équipes du monde.
Ferenc Puskas avait peut-être trouvé la meilleure formule. Il a dit « Le plus grand footballeur de tous les temps, c'est Di Stéfano. Pour moi, Pelé n'était pas un footballeur, il était bien au-dessus de ça. »
Pepe, qui était son partenaire à Santos, il était le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Santos FC derrière Pelé. Quand on lui en parlait, il disait « Non, non. C'est moi le meilleur buteur sur Terre de l'histoire du Santos FC. Parce que Pelé, lui, vient de Saturne. »
Merci Stéphane Cohen, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la biographie Pelé, éditée chez Solar, et disponible également en poche. C'était le Panthéon RMC Sport. Un homme, une légende, Pelé, le roi du football. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous pouvez écouter les épisodes précédents consacrés à Bernard Tapie, Kobe Bryant, Christophe Dominici, Ayrton Senna, Johan Cruyff, Mohamed Ali et Jonah Lomu. Merci à Maxime Abolin pour son précieux travail à la production. À bientôt.
Via guerra termina, mas sei que dia Deus dá uma solução. É tanta gente que morre sem razão.